Merci pour ce panorama d'un Zola numérique et merci d'avoir attiré notre attention sur les questions de sécurité, de pérennité. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, pour finir, on va vous présenter le projet d'édition numérique de la correspondance de Baudelaire. Il est encore embryonnaire. Voilà, André, avant, rappelez les enjeux.
C'est lequel déjà, je ne le connais pas. On peut déplacer le micro.
On peut le déplacer. Attends. Oui, tu vas te mettre à ma place.
Bon, je vais commencer, même sans PowerPoint, en vous rassurant, en rassurant ceux qui sont restés fidèlement jusqu'à la dernière intervention, ou l'avant-dernière. Donc je vais être court, succinct, et je vais aussi reprendre un point de vue plus littéraire. Avant de laisser conclure avec la série numérique d'Aurélia. Donc mon intérêt d'abord de vous encourager à l'édition, d'abord aussi à l'édition numérique autour de la poésie du 19e siècle, qui me semble être fort rare, et aussi de vous inviter à notre séminaire baudelairien qui a lieu à l'ENS, tous les mois. Et donc, je vous disais, j'abandonne temporairement ces sentiers génétiques et numériques en rappelant que dans son journal, en 1894, Jules Renard se moquait des hommes de lettres de son temps qui, je cite, « prennent copie de leurs lettres afin que la postérité puisse sans trop de mal réunir leurs correspondances ». Or, l'éditeur de la correspondance de Baudelaire n'est pas confronté à pareille chance. Comme l'observe Claude Pichot en ouverture des deux tomes de la correspondance de Baudelaire dans la Pléiade, un épistolier aime à écrire des lettres. Mais pas Baudelaire, qui transfère tant bien que mal sa difficulté créative à la rédaction de ses lettres, s'avouant même malhabile à en écrire. Une lettre me coûte plus à écrire qu'un volume, écrit-il le 16 décembre 1847 à Madame Aubic. Baudelaire était persuadé que l'état douloureux, ce sont ses mots, de son esprit, s'est donné à lire dans ses lettres, et que cela le poussait même à les multiplier, mais imaginativement, sans arriver véritablement à coucher sur papier sa pensée. C'est tout l'écart qui sépare la volonté et la faculté, un écart qui lui paraissait quelque chose d'inintelligible et qui nous fait rêver autour de sa correspondance comme autour de son œuvre. Si ses pensées tracassent nécessairement l'éditeur des lettres de Baudelaire, un autre ordre de préoccupation, je vois l'agitation à côté de moi, mais moi je reste calme. Un autre ordre de préoccupation, c'est parce que je n'ai pas l'approche numérique, peut-être que je peux le voir. Voilà. Parce que je tenais beaucoup à vous montrer mon beau titre, c'est pour ça, parce qu'à la fin je vais le reprendre, donc je suis obligé de vous le montrer. Pendente per interrupta, la correspondance de Baudelaire et ses éditeurs. Donc je disais, si ses pensées tracassent nécessairement l'éditeur de lettres de Baudelaire, un autre ordre de préoccupation plus général l'occupe également. L'éditeur consciencieux des correspondances sait qu'en quelque sorte il s'inscrit en porte-à-faux devant l'écrivain qui l'édite. Si sa bonne conscience est apaisée lorsqu'il publie des œuvres oubliées, délaissées ou simplement mal établies, il n'en est pas de même généralement devant ce palimpseste de l'intimité que sont les lettres d'un écrivain. Elle nous pose, et en particulier la correspondance de Baudelaire, un dilemme que je dirais affectif. Celle de l'auteur de Fleur du Mal, je veux dire la correspondance, n'est ni une chronique mondaine, ni un témoignage concernant son atelier créatif. Elle n'offre non plus l'alibi, malgré quelques admirables exceptions, d'être un manifeste poétique. Elle nous met face aux mêmes hantises de son œuvre, aux difficultés et aux embarras personnels et permanents de Baudelaire, à ce que nous connaissons bien depuis longtemps, à ses problèmes d'argent ou d'édition, au rapport compliqué qu'il entretient avec les hommes de lettres de son temps, à la relation profonde et violente avec sa mère. À l'éditeur de la correspondance de Baudelaire, donc, à ce biographe éditeur, mais qui ne peut pas excuser ses indiscrétions par le tour sentimental ou dévot de son récit, ne reste que la consolation de s'inscrire dans une tradition éditoriale noble qui a illustré les études baudelairiennes. Donc, avant de laisser, après cette courte introduction, la parole à Aurélia Servoni, qui présentera notre chantier numérique d'édition, je ferai un très court historique de l'édition des lettres de Baudelaire. Alors, tout d'abord, après la mort de Baudelaire, il existe quelques publications, les premières publications, qui donnent à lire des lettres de l'auteur de Fleur du Mal, qui sont publiées dans la presse par ses amis. Il y a ensuite, dans les années 70, deux volumes en particulier, qui sont de petits volumes, qui sont le Charles Baudelaire, Souvenirs, Correspondance, publié en 1872 à Paris par l'éditeur Pensebourde, qui donne à lire une quinzaine de lettres, pour la première fois un petit recueil, et en 1879, un volume publié par Étienne Charavé, à Combe d'Auteur, Charles Baudelaire et Alfred Vigny, candidats à l'Académie, où se trouvent 7 lettres, dont 5 à Vigny. Et là, nous passons à l'image que je vous propose, ce volume bien connu des œuvres posthumes et correspondances inédites de Baudelaire, parce que c'est Eugène Crépet qui fut le premier véritable éditeur de la correspondance de Baudelaire, à travers ce volume que vous voyez, publié en 1887, que d'ailleurs Nietzsche a connu, mais qui malheureusement n'appartient pas à la bibliothèque que tu édites, hélas. Eugène Crépet, donc maître d'œuvre d'une anthologie de la poésie française, en 1861 et 1862, à laquelle Baudelaire et beaucoup d'autres écrivains de son temps avaient collaboré. Dans les œuvres posthumes et correspondances inédites, vous voyez au pluriel correspondance, Eugène Crépet publie de nombreux extraits de lettres à Ancel, à Armand Fraisse, donc à ses correspondants Lyonnais, Armand Fraisse, Josephine Soulary, 5 lettres de Baudelaire à Flaubert, 70 lettres à Poulet-Malassy, 22 à Sainte-Beuve. Il les accompagne d'autres documents, là vous voyez la table de matière, donc d'autres documents, dont une lettre de Georges Sand à Baudelaire et de lettres de Madame Aubic, la mère de Baudelaire, à Asselineau et d'Asselineau à Poulet-Malassy, donc entre les amis de Baudelaire. Eugène Crépet attire l'attention sur l'importance des lettres que Baudelaire avait envoyées à son éditeur, Poulet-Malassy, en rappelant que celui-ci se réservait d'en faire une publication partielle. Après d'autres publications plus restreintes, je donne juste quelques étapes de la publication de la correspondance de Baudelaire, c'est Félix Gautier qui publie entre 1902 et 1906 dans la Revue Bleue, la Nouvelle Revue et le Mercure de France, 80 lettres qui recueillent un volume en 1906 aux éditions de la Société du Mercure de France. Le titre est Charles Baudelaire, lettres 1841-1866. C'est le premier volume entièrement consacré à la correspondance de Baudelaire. En 1917, année où l'œuvre de Baudelaire tombe dans le domaine public, c'est exactement 50 ans après sa mort, Camille Vergniol fait paraître dans la Revue de Paris 130 lettres inédites de Baudelaire à Madame Aubic. L'année suivante, Jacques Crépet reprend ses lettres, donc Jacques Crépet, le fils de Jean Crépet qui a publié les œuvres posthumes, reprend ses lettres après en avoir vérifié les manuscrits et les publie aux éditions Louis Connard. Ce corpus sera encore publié en 1932 aux éditions Calmont-Lévy sous le titre « Lettres à sa mère ». Qui ouvre, je dirais, presque un genre littéraire à l'intérieur des études baudelairiennes, de l'édition baudelairienne, qui est celle des lettres de Baudelaire à sa mère, qui est peut-être le corpus le plus connu, le plus beau aussi. D'autres publications de lettres de Baudelaire s'ensuivent, notamment un fac-similé, donc même sans transcription, comme un numéro spécial du manuscrit autographe consacré à Baudelaire en 1927, par le libraire Auguste Blaiseau. Un projet d'édition des œuvres complètes de Baudelaire par Félix Gautier aux éditions de la Nouvelle Revue Française ayant échoué, Yves Gérard Le Dantec fait paraître en 1933 un volume de correspondance concernant les années 1841-1863. Ce volume apporte une centaine de lettres ne figurant pas dans l'édition de 1906. Vous voyez là déjà, je dirais, la dimension à la fois collaborative, chronologique, mais collaborative de ce monument qu'est la correspondance de Baudelaire, qui est peu à peu éditée et complétée. Mais une étape mémorable dans cette histoire éditoriale est marquée en 1922 par la publication du premier volume des œuvres complètes de Baudelaire, établi par Jacques Crépet, dont j'ai parlé, le fils d'Eugène. L'éditeur rassembla alors une correspondance générale en 6 volumes. Vous trouvez ces volumes d'ailleurs si vous êtes intéressé, numérisés sur Internet. Donc une correspondance générale à l'intérieur ou associée à ces œuvres complètes. Vous remarquerez qu'il les appelle justement générales, comme encore à l'époque on faisait, et pas complètes, parce que l'édition complète des œuvres de la correspondance n'existe pas par définition. Correspondance générale, donc en 6 volumes, parus de 1947 à 1953, et qui est achevée par Claude Pichois. Elle comprend 1092 lettres ou témoins, donc aussi des petits rappels de l'existence de lettres dont on ne connaît pas le manuscrit, et l'indication de 79 lettres manquantes. Il s'agit d'une édition fondatrice ayant constitué la base de la future édition de la correspondance de Baudelaire par Claude Pichois. Elle est conduite sur des critères philologiques assez novateurs aussi pour l'époque, au moins dans le domaine baudelairien, comme Jacques Crépet le rappelle, non sans une pointe d'orgueil dans son avertissement. Je cite, « On s'est appliqué à procurer ici un texte irréprochable, l'établissant chaque fois qu'il était possible sur les pièces originales ou à défaut, recourant aux sources qui présentaient le plus de garanties. On a révisé du plus près les classements antérieurs, etc. etc. » Là, vous voyez l'étendue de cette édition, dans ce cas-là, des œuvres complètes de Baudelaire, publiées par Jacques Crépet. L'édition de la correspondance de Baudelaire par Jacques Crépet, malgré ses inévitables imperfections, est un outil précieux encore aujourd'hui, je trouve. Elle est à l'origine de l'édition qui reste aujourd'hui celle de référence. Je veux parler de 2 tomes de la correspondance de Baudelaire publiés par Claude Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler, qui était le fils de Jacques Crépet. Donc vous voyez cette continuité baudelairienne, cette fidélité, non, qui part de Baudelaire lui-même presque. Et qui arrive jusqu'à nous. Dans la bibliothèque de la Pléiade en 1973, et dont un nouveau tirage du premier tome apparu en 1993, avec un supplément de 25 lettres reçues. Donc vous trouvez ce supplément à la fin du volume. Donc faites attention quand vous cherchez des lettres, il y en a aussi qui ne sont pas dans les 2 tomes, mais qui sont à la fin du premier seulement. Et un nouveau tirage du second tome en 1999, donc avant la mort de Claude Pichois. Cette édition contient environ 1420 lettres et témoins. Elle comprend aussi 70 documents comptables et reçus, donc c'est un choix, rendant compte des difficultés financières de Baudelaire, mais fait en revanche l'économie des dédicaces et des envois du poète, comme d'ailleurs c'est souvent le cas. Or, Claude Pichois justifie dans son introduction l'exclusion, là si nous touchons à un point important aussi dans la publication des correspondances qui a été déjà évoquée tout à l'heure, donc l'exclusion des lettres, ce que tu avais appelé la correspondance passive et que Pichois appelle les lettres envoyées à Baudelaire, plus simplement, par un scrupule d'édition et d'opportunité. Je cite, « Celles-ci n'ont pu être insérées, écrit Pichois, à point, celles-ci n'ont pu être, ça voulait dire que la Pléiade, j'imagine, n'avait pas voulu les insérer, écrit-il en ajoutant aussitôt, en justifiant presque cette prise de position à l'égard de son éditeur, et peut-être n'avait-elle pas à l'être, peut-être. Il est en effet, ajoute encore Pichois, loisible de penser qu'une correspondance, au sens strict, ne s'entend bien que de deux scripteurs et que la polyphonie, déjà à l'époque on parlait de polyphonie, hein, que la polyphonie cache la voix principale. Celle précisément qu'on veut entendre et qu'on entendra ici. Claude Pichois donnait à lire ses voix secondaires, qui ont peut-être parfois fini pour rester inaudibles dans un volume des études baudelairiennes intitulé « Lettres à Charles Baudelaire » et publié en 1973, donc la même année de la Pléiade, aux éditions de la Baconnière à Neuchâtel. Évidemment, publier la correspondance de Baudelaire dans la Pléiade n'a pas la même valeur aux yeux du public, qui évidemment, ça reste beaucoup moins accessible que publier la correspondance à Baudelaire à Neuchâtel à la Baconnière. C'est pour ça aussi que ces lettres, finalement, sont beaucoup moins lues et beaucoup moins repérables que la correspondance de Baudelaire. Cette édition de la correspondance de Baudelaire dans la bibliothèque de la Pléiade, qui fêtera bientôt, imaginons déjà, ses 50 ans, a été plus récemment complétée par deux éditions, Les Nouvelles Lettres, Fayard, publié en 2000, où Claude Pichois donne le texte de 75 lettres et documents inédits de Baudelaire, et les lettres à sa mère, éditées par Catherine Delons, établies par Catherine Delons, recueillant les 350 lettres qu'on trouve évidemment dans la Pléiade, qui sont républiées et complétées. Alors les lettres, je pense, sont quand même complètes dans la Pléiade, mais Catherine Delons ajoute d'autres documents à côté. Donc, qui comprennent les 350 lettres de Baudelaire à Madame Aupic. En outre, depuis 15 ans, d'autres lettres auparavant inconnues de Baudelaire ont fait l'objet de présentations ponctuelles, donc tout n'est pas dans la Pléiade, en particulier dans l'année Baudelaire, la revue baudelairienne que vous connaissez, et d'autres encore restent inédites. Donc je m'apprête à conclure mon excursus. Justement, ce court excursus rend compte de la lente conquête éditoriale qu'implique la publication de la correspondance d'un auteur moderne. Une telle édition est susceptible de se compléter, de s'enrichir sans cesse, en rendant ainsi incomplètes les éditions passées. Les éditeurs de correspondance pourraient déplorer à leur compte cette loi de l'art que Virgile a formulée, que Baudelaire a fait sienne et que Victor Hugo a généralisé. Pendent opera interrupta. Les travaux interrompus restent en suspens. Dans Notre-Dame de Paris, on lit que les grands édifices comme les grandes montagnes sont l'ouvrage des siècles. Souvent, l'art se transforme, qu'il pende encore, pendent opera interrupta. Il se continue paisiblement selon l'art transformé. Alors là, on a un état de l'art, on a un état de l'art génétique. Donc voilà comment, et peut-être un autre jour, on aura une autre méthode encore plus efficace. Il s'agissait donc pour nous, je conclue, de nous placer dans le sillage de la tradition baudelairienne, il me semble que c'est la seule consolation, et d'offrir une nouvelle édition de la correspondance de Baudelaire fiable et complète, mais complète sur de nouvelles bases, avec le projet Baudelaire numérique. Donc, et avec ce jalon en particulier, qu'est l'édition électronique de la correspondance de Baudelaire, nous nous proposons ainsi de relever le défi lancé en 2000 par Claude Pichois, qui regrettait le destin des correspondances, voué à rester à tout jamais inachevé. destinés à accueillir les nouveaux documents qui apparaissent régulièrement dans les ventes publiques, son ambition est de promouvoir l'inachèvement ouvert et perfectible de l'édition électronique et de contribuer à une meilleure connaissance des écrits et de la vie de Baudelaire. Donc je laisse la parole après cette introduction vague et peu numérique à la co-responsable de ce projet, Aurélia Servoni, qui vous montrera un peu plus en détail le principe de notre travail d'émission. Malheureusement, le temps s'en va.
Merci André. Je prends donc le relais là, pour des questions pratiques. Voilà. Alors, l'édition numérique de la correspondance de Baudelaire, nous l'avons mise en chantier très récemment, à l'automne dernier. Elle est hébergée par la plateforme d'édition numérique IMAN, qui est aussi exploitée par nos amis Zoliens. Donc voici la page d'accueil du projet. C'est la seule chose visible pour l'instant, accessible au public. Alors, nous avons commencé, travail préliminaire, par constituer un répertoire des lettres de Baudelaire connues à ce jour, en dépouillant la table des matières de l'édition de la correspondance de la Pléiade et la table des matières du volume des nouvelles lettres édité par Claude Bichois chez Fayard en 2000. Nous avons aussi compilé quelques publications ponctuelles qui ont vu le jour ces 20 dernières années sur telle ou telle lettre, souvent à la faveur d'une vente aux enchères. Et ce premier travail a permis de mettre à jour quelques erreurs de datation et même quelques erreurs relatives à l'identité de tel ou tel destinataire. Le principe de cette édition numérique, est très proche de ce que font les amis de Zola, c'est de donner une transcription du texte scientifiquement annoté et, quand c'est possible, le fac-similé du manuscrit, assorti de précisions codicologiques. Je vous montre rapidement ce que pourra donner à l'écran l'édition d'une lettre. Donc voici un premier écran avec le fac-similé, des informations générales, notamment la référence de la publication dans la Pléiade. En cliquant sur le fac-similé, on pourra ensuite accéder à la transcription annotée. Alors là, je vous demande d'imaginer, parce que bon, la transcription, pour l'instant, elle n'est pas achevée. Les signes kabbalistiques que vous voyez, ce sont des balises destinées à faciliter la mise en page à une étape ultérieure du projet. Vous reconnaissez peut-être ce document, c'est la fameuse lettre de Baudelaire à Fernand Desnoyers, dans laquelle Baudelaire se moque des poètes de la nature et de leur culte pour les légumes sanctifiés. Elle renferme le texte de deux poèmes, grands poèmes des fleurs du mal, Le crépuscule du soir et Le crépuscule du matin. Cette lettre date de la fin de l'année 53 ou de l'année 54, sa datation fait l'objet d'un débat. Ce que vous voyez à l'écran, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas la lettre elle-même, c'est plus vraisemblablement un brouillon. Si on retrouvait la lettre elle-même, on aurait un petit dossier génétique. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors, l'annotation, pour l'instant, bah oui, elle n'est pas annoncée. Nous ne sommes pas encore assez loin dans notre démarche éditoriale. L'annotation que nous envisageons, elle se conformera au protocole traditionnel de l'édition scientifique. Elle élucidera les allusions historiques, biographiques, factuelles. Elle donnera aussi l'origine des citations. Elle soulignera le lien intertextuel entre la correspondance de Baudelaire et son œuvre. Elle fournira au besoin des éclaircissements lexicaux, mais pas beaucoup. Et puis elle indiquera les variantes quand il y en a. Alors j'ouvre une parenthèse pour signaler qu'il y a quand même un certain nombre de variantes dans la correspondance de Baudelaire. Alors dans le fac-similé du brouillon de lettres à Desnoyers, on voit par exemple au milieu de l'écran que Baudelaire a retouché sa phrase à deux reprises au moins. Il avait d'abord écrit « Je ne croirai jamais que l'âme des dieux habite dans les plantes, et quand bien même elle y habiterait, je m'en soucierais médiocrement et considérerais la mienne comme d'un bien plus haut prix. » Et puis il a ensuite ajouté à la fin de la phrase, avec une encre différente, « que seuls des légumes ». Puis on voit qu'il a barré le mot « légumes » et qu'il a ajouté, réécrit un peu plus loin, « légumes sanctifiés ». Donc le support épistolaire se prête à l'exercice du style. Je referme cette parenthèse sur les variantes. L'intérêt d'une édition numérique par rapport à une édition traditionnelle, c'est qu'elle permet d'apporter un supplément d'informations qui ne pourraient pas trouver leur place dans un volume imprimé. À l'image de ce qui se fait dans d'autres projets de ce type, nous envisageons de créer des liens hypertextes vers différents documents accessibles en ligne. On pourra par exemple donner la référence d'une citation en renvoyant à l'édition originale en ligne de l'ouvrage cité. Alors ici, pour la citation de Victor de la Prade, que Baudelaire déforme, peut-être à dessein, « L'âme des dieux habite dans les plantes », elle apparaît soulignée sur le facsimilé. On mettra un lien vers l'édition originale des odes et poèmes de la Prade, d'où vient cette citation. Voilà, on fera un lien vers cet écran. Vous voyez que Victor de la Prade avait écrit « L'esprit calme des dieux habite dans les plantes ». De la même manière, pour les œuvres picturales mentionnées dans le corpus, on pourra reproduire ces œuvres et on renverra aux bases de données iconographiques des musées où elles sont conservées. On peut aussi imaginer créer des liens vers des plans de Paris, d'ailleurs, pour situer un endroit dont Baudelaire parle, ou un endroit d'où il écrit. La réflexion sur le potentiel hypertextuel, si vous me pardonnez l'expression, du corpus est ouverte. Cette édition sera bien sûr pourvue d'un moteur de recherche qui facilitera les recherches dans le corpus et dans les métadonnées, c'est-à-dire toutes ces informations qui permettent le catalogage d'un document, la date, le lieu de rédaction de la lettre, son destinataire, les mots-clés relatifs au sujet, la localisation, la description physique du manuscrit. On pourra retrouver tous les mots-clés sur une page dédiée, un cloud, pour employer un mot à la mode. Voilà. Pardon ? Oui. Alors, dans l'avenir, on en a déjà parlé au cours de cette séance, et c'est l'intérêt majeur d'une édition numérique. La flexibilité du support électronique nous permettra d'incorporer les lettres inédites qui apparaîtront au fur et à mesure des ventes publiques ou à d'autres occasions. Et bien sûr, on mettra régulièrement à jour la notation pour tenir compte des progrès de la recherche populaire. Voilà, je vous remercie.
J'en profite parce que j'ai une question, une réflexion à soumettre à Paolo et à la fois une question qui concerne, je repensais à ton intervention, à toutes les magnifiques possibilités du numérique. Et je me disais que c'est curieux parce que à la fois cette explosion du digital, du numérique, il détruit la possibilité future d'une édition génétique. Parce qu'un écrivain d'aujourd'hui qui utilise un ordinateur n'aura aucun dossier génétique à présenter. Parce que forcément, sauf si on arrive à rétablir. Et en même temps, il donne lieu, il fait épanouir la génétique. Parce que je me disais, est-ce qu'une vraie génétique textuelle pouvait exister avant l'informatique ? Parce que moi, je suis extrêmement convaincu, quand tu as montré, je me dis... C'est vrai, c'est le graal de la compréhension du texte dans toute sa genèse et sa splendeur. Mais est-ce que ça pouvait exister quand il y avait les volumes de Colli et de Montinari ? C'est ça que je voudrais te poser comme question. En déplaçant la bête.
Les dossiers génétiques, j'ai un magnifique dossier génétique dans mon ordinateur, dans le sens où, comme vous tous, j'ai fait plusieurs versions de mes fichiers. C'est vrai qu'on perd ce que les Allemands appellent support correcteur, c'est-à-dire la correction qu'on fait pour l'indicat à lui-même. Mais c'est vrai aussi qu'on a un corpus de copies des versions du même fichier à des dates différentes, qui c'est qui communique, ça va devenir un dossier génétique un peu plus compliqué, je pense. Et on est rassuré aussi sur les questions de la génétique. Je vais te dire aussi qu'on a déjà commencé à étudier les disques des écrivains. À un mec, à l'Institut de mémoire et de son contemporain, sont conservés les autres. forcément être lié dans le fichier, tel qu'on le voit, mais on va être lié dans les secteurs de distribution où les textes effacés, pour voir si on peut les récupérer, parce que vous savez, les programmes d'écriture peuvent maintenir des copies et des versions préparatoires qui sont invisibles à la surface, mais qui peuvent être récupérées.
Voilà ma réponse.
D'autre part, est-ce qu'on pouvait faire cela sur papier? Mais ça dépend de la quantité, finalement. Parce que je pense, j'ai même envisagé de faire une édition de Voyager de ce monde, qui a un texte des bylaws de 350 aphorismes, et de la faire sur papier, avec un joli coffret, où on aurait en facsimilé les 6 carnets, les 2 cahiers, les épreuves, les manuscrits pour l'impression, avec tout un appareil génétique, avec les diagrammes, les parcours, et on pourrait le faire, je pense. Ça serait même un objet intéressant pour l'imprimerie, sauf qu'on ne peut pas le faire à l'échelle de toute la production d'une image. Donc, c'est plus qu'une question de qualité. C'est vrai qu'il y a une question de qualité, bien sûr, mais c'est aussi une question de quantité. Et par ailleurs, on a dans la tradition italienne, il y a des éditions diplomatiques et génétiques, on les dirait aujourd'hui, des tétrarques, des manuscrits de tétrarques qui ont été faits à la Renaissance, avec des techniques d'imprimerie très, très perfectionnées qui mettaient, par contre, vous savez, les tétrarques écrivaient ses poèmes en italien, mais ils faisaient des commentaires sur ces poèmes, sur les choses qu'il fallait relire, revoir, etc. Et donc, il y a des éditions qui ont envie de publier les manuscrits conservés au Vatican, etc. Tout est possible, mais c'est vrai que, effectivement, comme j'ai dit dans votre référence, les numériques se prêtent très bien aux éditions génétiques. Il y a un problème. Il faut savoir s'y limiter. Tout est possible, mais si on met tout dans une page, dans un système, dans une édition, les gens s'y retrouvent plus. Lorsque je fais, quand je conçois les différents paris, je source tout le temps, c'est d'éliminer les fonctions, de mettre le moins possible les fonctions, le moins possible. Parce qu'on ne peut pas retirer toutes les fonctions, parce que sinon, mais il faut se dire qu'est-ce que est vraiment indispensable et quelles sont les fonctions que je peux retirer sans nuire à l'ensemble. Parce qu'une fonction de plus est du chaos pour le lecteur, c'est quelque chose qui va compliquer la navigation. Il faut atteindre la simplicité. Et la simplicité, comme le disait Chopin, est la dernière chose.
Mais ça, là, je reconnais vraiment l'empreinte de la téléologie du généticien, dans la simplicité.
La simplicité, c'est la chose la plus difficile.
Tu veux le micro?
Oui. Des questions comme ça, on ouvre.
Oui, on peut parler sans micro. André ? Oui, ben tu peux.
J'ai beaucoup de questions, je n'ai même pas tout le temps. J'ai pas de mémoire, mais j'en ai deux. Donc je vous préviens qu'elles ne paraissent pas solides. Je vous préviens pour que vous ne soyez pas obligé de répondre. La première, ça reste plutôt à Paolo, mais un peu à tout le monde aussi, et la seconde plutôt à ceux qui s'occupent de questions de correspondance, au projet d'édition de correspondance. Première question concernant deux ou trois images sont apparues avec des couleurs à certains moments. Et les couleurs, si j'ai bien compris, impliquaient une chronologie de la correction. Vous posez-vous, nous posons-nous la question de la chronologie dans la genèse, le mot genèse suppose chronologie, suppose le temps, dans l'espace de la page, du livre ou du manuscrit. Là, je pense que dans le cas que vous avez montré de Nietzsche, c'est assez cohérent pour comprendre, reconstituer une chronologie. Ce que j'ai à l'esprit, c'est des pages de Proust où, malgré leur grande complexité, de grandes difficultés de lecture, je crois que la chronologie apparaît très bien. Flaubert, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle n'est pas lisible, où on ne peut pas la reconstituer. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite à ce sujet? Je ne sais pas. Parfois, dans les vieilles éditions critiques, on essaie de reconstituer. Alors, la deuxième question concernant les projets d'édition de Brassenance. Moi, je reste un peu nostalgique d'une forme qui ne va plus exister, me semble-t-il, et qui pourtant est très éloquente. C'est ce qu'on appelait avant la correspondance croisée, c'est-à-dire la conversation duel entre deux personnes qui se sont écrites. Il y a des volumes magnifiques, Flaubert au passant, Flaubert dans le sang, Flaubert au gagnant, souvent Flaubert. Et je me disais que malheureusement, ça n'existerait plus guère dans ces très ambitieux projets dont vous parlez. Et du coup, je voulais poser la question de l'ouverture du corpus, de ce qu'on appelle une correspondance générale, c'est-à-dire toutes les lettres de Zola, toutes les lettres de Flaubert, vers ce qu'on appelle parfois la correspondance complète, je crois, c'est-à-dire avec les réponses. Et je me disais, parce qu'on peut toujours dire, oui, c'est dommage qu'il manque les réponses. Dans le cas de Baudelaire, n'oubliez pas que si l'on a mis à part, c'est l'initiative de Claude Pichois, de publier des lettres à Baudelaire, et pas dans la Pléiade, les lettres qu'il a reçues, c'est parce qu'il y a une extraordinaire disproportion. Nous avons beaucoup, quand même, de lettres de Baudelaire, très peu de lettres à Baudelaire, parce que le très sévère Baudelaire triait. Et donc il a gardé quelques lettres, et ce qui nous fait mal quand même, il n'a pas gardé les lettres de sa mère. Je ne sais pas quand il les a jetées, peut-être au fur et à mesure qu'il les recevait, mais en tout cas, on ne les a pas. Peut-être qu'il a bien fait, je ne sais pas. Un autre effet serait perceptible entre ce qu'elle lui écrivait et ce qu'il lui répondait. Et puis, quand on se met à ouvrir la correspondance générale à la correspondance complète, où est-ce qu'on s'arrête? Parce que pourquoi est-ce que la lettre d'un tiers à un autre ne serait pas là? Il y a quelques cas de volume de correspondance intéressants. Je ne sais pas si vous le connaissez, il y a une vingtaine d'années, on a publié un livre de correspondance qui s'appelait Correspondance à trois, Huysmans, Villiers de l'Isle-Adam, Léon Blois. Et Ali devrait préciser le titre, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on a ajoutés. Et c'est bien ça, c'est trop rare aussi, parce que tout un milieu, toute une question peut apparaître dans un contexte d'une manière plus généreuse qu'avec une seule correspondance. On peut aussi imaginer des correspondances qui reflètent des moments, tout ce qui s'est écrit des uns aux autres à propos du procès des Fleurs du Mal, des lettres de Baudelaire, des lettres sur Baudelaire, etc. Donc cette autre question, où s'arrête-t-on quand on publie une correspondance? Une correspondance n'est jamais une correspondance, c'est toujours le monde littéraire qui s'ouvre, et tout le monde qui s'écrit, et tout le monde qui se parle.
Il y avait une partie.
La première question est insoluble. C'est pas une question qui est insoluble, c'est la science qui parfois touche ses limites. Il y a deux erreurs, des fausses pistes, disons, quand on travaille avec le numérique. La première, je vous disais tout à l'heure, on peut le faire, donc on le fait. C'est-à-dire, on a cette fonction qui est possible d'utiliser, donc on l'utilise, même si ça ne sert à rien dans l'économie, dans l'ergonomie aussi. Première. Le deuxième est de croire que les machines peuvent faire mieux que nous, qui peuvent par exemple détecter une chronologie que les chercheurs n'auraient pas détectée. Non, à mon avis, les machines, je vous disais tout à l'heure, sont stupides mais rapides. Ils peuvent nous permettre de représenter ce que nous avons trouvé. Ils ne peuvent pas, malheureusement, ça serait bien, nous permettre de trouver ce que nous n'avons pas trouvé. Donc, si on n'a pas trouvé la chronologie, on me dit souvent, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas trouvé les niveaux de lecture? Mais si on ne les a pas trouvés, on ne les met pas, tout simplement. L'édition, ça,
C'est un moyen d'édition de ce que nous avons trouvé. Si on ne l'a pas trouvé, on ne peut pas l'éditer, on ne peut pas le présenter, on ne peut pas le représenter. Donc c'est un problème grave, parce que quand même ça montre une limite de notre capacité des chercheurs, mais ce n'est pas un problème grave par rapport au numérique, tout simplement, on l'abandonne. Par contre, les correspondances, on ne les abandonne pas, je vous laisse répondre.
Quelqu'un veut répondre sur la... Moi j'ai déjà... Parce qu'on va en parler toute la soirée
c'est
après.
Très bonne question.
Je vais répondre à la question. C'était une question à poser, c'est de dire, parce que moi je fais l'édition de France Zola et on l'a fait à la recette de Faubert, il faut absolument que nos deux éditions numériques se répondent, que les choix technologiques, numériques, en fait, puissent rendre compte de cette correspondance croisée. Parce que pour moi, la croisée, elle est vraiment à la base même, je pense, projet d'édition de correspondance, il faut l'envisager. Pareil pour la 403, moi je travaille sur Émile Zola, Alfred Bruno, son musicien, Louis Gallet, son librettiste. Il y a une correspondance à trois, entre Zola, Gallet et Bruno, mais aussi entre Zola et Bruno, entre Bruno et Gallet sans Zola. Eh bien, le numérique me permet en fait de réinvestir le choix de plus célèbre, que la plupart du temps on met simplement en note dans la correspondance de celui qui est plus célèbre, ici, à savoir Émile Zola. Donc, je pense vraiment que, vraiment, au contraire, le numérique ne perd pas cet aspect-là, en fait, des échos, soit dans le projet en interne, voilà, mais aussi dans l'interopérabilité, comme on dit, de projets d'édition de correspondance. Et j'irais même aussi dans cet idéal où tous nos projets pourraient un jour communiquer les uns les autres, même s'il n'y a pas un rapport direct. Voilà, je sais, on peut très bien faire. Des liens entre la performance de Baudelaire et celle de Zola, même s'il n'y a pas d'être de Baudelaire et Zola, mais de manière indirecte. Donc, au contraire, je pense que ça peut ouvrir des perspectives encore plus larges. Mais je rejoindrai aussi ce que l'on dit, finalement, par rapport au numérique, c'est qu'il y a aussi parfois une vision du numérique, où le numérique pourrait tout faire, ce que le papier n'arrivait pas à faire. Je n'y crois pas du tout. Quoi. Je ne suis pas non plus, moi, BA, face aux outils numériques. Ils ont leurs avantages, ils ont leurs défauts. À nous d'aller chercher le meilleur de ces outils et de conserver aussi nos éditions papier dans ce qu'elles apportent dans ces éditions.
Il y a aussi un danger, il me semble, implicite dans l'édition numérique, c'est celle, désolé de faire, mais quelqu'un, il faut quelqu'un qui. C'est que, en fait, c'est la manière même de lire qui est bouleversé. Parce que sinon on publie une édition électronique complète de la correspondance, entre guillemets, de la correspondance de Baudelaire, il n'y aura personne qui la lira entièrement, du début à la fin, sur Internet. Donc, si on arrête de publier des éditions papier, mais je parle, nous, on en a parlé, on s'est toujours dit que, c'est vrai ça aussi, on s'est toujours dit que l'édition papier, voilà, il faut à côté, parce que sinon personne, déjà on arrête de lire des correspondances et en général des livres, et encore plus si on publie que sur Internet, même des éditions parfaitement établies, il n'y aura plus personne pour les lire. Il y aura des gens qui font des recherches.
Font des recherches, voilà.
Et c'est tout. Recherches.
Oui, c'est le grand danger. Enfin, c'est un des dangers. C'est vrai que, si je peux ajouter un mot, il y a ce problème des... qu'il faut mettre ensemble la lisibilité que nous avons par l'imprimerie et l'exhaustivité que nous pouvons avoir grâce au numérique. Il ne faut pas échanger les deux. Il ne faut pas penser que l'exhaustivité puisse être sur les papiers, parce qu'on n'y arrivera pas, il faudra s'arrêter. Et on ne peut pas penser que la lisibilité soit du côté du numérique, parce que ce n'est pas comme ça. On a envie de chercher, on a envie de cliquer quelque part, et lire, c'est plus difficile, même sur les tablettes, etc., c'est différent. Et d'ailleurs, la preuve est que la mort du livre qu'on m'annonçait il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à m'occuper du numérique, c'est jamais réalisé. On publie autant de livres, peut-être plus. Certes, on ne publie plus, par exemple, les pages, enfin, l'annuaire téléphonique, parce que là, c'était purement des fonctions de recherche, et finalement, le numérique sait les faire mieux. Donc il y a ça. Mais il y avait une question. Quand même, qui était une bonne question. Où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on s'arrête? Parce que moi, en 2000, j'avais publié ce livre Hyper Nietzsche, qui était l'idée de faire un modèle d'un hypertexte consacré à Nietzsche, mais qui devait servir un peu à tous les autres auteurs. Et puis j'avais ce rêve des hypertextes croisés, c'est-à-dire qu'on pouvait chercher dans un hypertexte et puis se connecter à un autre hypertexte, un hypertexte de Flaubert, comme tu le disais, qui parlait avec un hypertexte de Zola, etc. C'est que les informaticiens, dans leurs rêves, caractérisent avec le terme d'interopérabilité. C'est un très beau rêve, effectivement, on n'y arrivera jamais, parce que les gens ne trouvent jamais les standards, et les standards d'aujourd'hui, ne soyons pas dupes, seront les anciens standards dans 10 ans, et voilà. Quand j'ai commencé, par exemple, les standards incontournables, c'était l'SGML. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Donc. Mais tout le monde me disait, pourquoi tu n'utilises pas SGML? Ben, parce que je n'en ai pas besoin, j'utilise autre chose. Bon, mais donc l'idée, où est-ce qu'on... Et c'est une bonne idée, je pense, une vieille idée à l'époque, j'étais parmi les pionniers, mais après j'ai mieux réfléchi. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Donc la question où est-ce qu'on s'arrête est très importante. Pour éviter de livrer des hypertextes qui sont toujours en work in progress. C'est pour ça que j'ai abandonné aussi les termes hypertexte, qui a toujours été un peu vague, même si j'avais cherché à les rendre plus précis dans mon livre. Et j'ai récupéré les termes de la tradition érudite, l'édition, la revue, l'édition critique, l'édition en facsimilé, qui permettent aussi de présenter quelque chose de fini. Et il faut éviter d'avoir des hypertextes que, bon, on peut toujours ajouter, on peut toujours changer, ça, on ne les termine jamais. Donc, du coup, les lecteurs savent que c'est jamais complet. Mais si ce n'est pas complet, ça ne vaut rien. Parce que même pour chercher les typiques fonctions du numérique, et je cherche un mot, mais si l'édition n'est pas complète, c'est inutile. Donc, aussi dans les livraisons, il faudrait livrer les différentes parties quand elles sont suffisamment complètes. Il ne faut jamais ouvrir les sites. C'est ouvert, j'ai envie de les faire. Non, il faut terminer au moins une partie. On ne terminera jamais tout, probablement, mais c'est poser des limites et attendre l'édition dans sa partie, la perfection, disons comme ça, de l'édition dans sa première partie, par exemple, et après l'ouvrir. Même stratégiquement, même éditorialement, il faut récupérer en sens de l'éditorialisation de ce qu'on fait sur le net. C'est ça l'idée. Et pour cette raison, la question, quelles sont les limites, où est-ce qu'on s'arrête, est très importante, d'un point de vue éditorial, qui implique ensuite une réception, une lecture différente de ce que nous faisons.
Il faut également mettre justement à travailler à l'origine les personnes pour faire bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une édition numérique et quels sont les efforts pour y arriver. Parce que si on y accède sans être jamais passé par la construction, là on perd toute la pédagogie de l'effort qui fait partie de la formation littéraire. Et ça c'est extrêmement grave. Donc j'espère qu'on n'en terminera jamais. Comme ça, tout le monde pourra toujours s'investir dans les chantiers d'édition.
Différentes parties, oui, différentes, une après l'autre. Il y a d'autres questions?
Oui.
Vous voulez venir dire ici? Non, voilà. Vous l'attendez.
Je pense que c'est un aspect qui va être développé dans un autre.
sans oublier les sciences dures, parce que bon, nous sommes concernés, moi je découvre en fait cette question à travers Jean-Sébastien Mack, mais dans les sciences dures ou exactes, là où il y a un enjeu en effet économique, parce que c'est toujours ça qui règle la question, alors là, il y a peut-être...
Sur le piratage, je pense que l'ennemi, c'est d'abord nous-mêmes, semble-t-il. Enfin, en termes de priorité des données numériques, le piratage, c'est vraiment des salaires et périphériques et négatifs. Je pense que c'est nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis dans la manière dont nous gérons les données numériques. Parce qu'il faut des protocoles, comme par exemple, qui ont mis en place au départ, et que c'est finalement dans ces erreurs-là qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait pour protéger les données. Quoi. Moi, je pense que ça demande une grosse réflexion, effectivement, sur le plan technique et logistique de données et qualité de données. Parce que il faut que les nouvelles éditions ne disparaissent pas avec, avec nous ou avec le changement du labo. Il y a cette question-là, en fait, de données aussi. Voilà. Et ça, donc, pour revenir aussi sur la délimitation du corpus, dans un projet numérique, c'est effectivement essentiel de délimiter le corpus. Et effectivement, de savoir comment on peut gérer quelle masse de corpus. Selon les forces présentes et le temps dont on dispose. Mais je trouve aussi que le numérique a cet avantage du pragmatisme. C'est aussi, ben voilà, j'ai c'est un millimètre à éviter, justement, on n'y arrivera jamais, mais j'ai une vision de grec qui vient passer un mois à l'hôtel et qui a envie d'éviter les 25 mètres de gens qui arrivent à Basora. Bon, ben, on n'y est pas passé au départ, on voyait pas forcément l'utilité de publier celle-là plus que l'autre. Et puis, si on a quelqu'un qui veut bien le faire, qui va faire le travail, et très très bien en plus, hein, et qui va nous apporter l'expertise que nous n'avons pas forcément au départ, et bien on le fait grâce à des numériques et on les met finalement très rapidement en ligne et à disposition. Donc je suis aussi, moi, attaché à ce pragmatisme du numérique, qui fait qu'on peut pouvoir faire le bon, et puis faire les choses qu'on est parti faire au départ.
Il y a d'autres questions avant de. Oui?
Thank you.
oui, c'est réunir, c'est parler, c'est mêler, c'est toujours bien. Là, je suis parfaitement d'accord. Sur l'idée qu'il existe une tradition italienne, philologique, et une tradition française génétique, je suis moins d'accord, là, au sens où la tradition italienne, soit disant italienne, n'est pas que italienne, mais allemande aussi, c'est la tradition de l'érudition, ça vient des philologues alexandrins, et on, là, c'est la tradition. Et puis il y a un autre malentendu, parce qu'effectivement on ne sait pas entre l'Italie et la France sur ces questions, et surgissent parfois des malentendus. Le malentendu, principal malentendu est dans les noms, comme d'habitude. Parce que les Français ont un nom qui est la critique génétique, et qui en réalité couvre deux choses. La critique génétique et l'édition génétique. Les Italiens ont deux noms, critica delle varianti et philologia d'autore. Critique des variantes et philologie d'auteur. Ou la critique des variantes est l'activité critique, l'interprétation, et la philologie d'auteur est l'activité éditoriale. D'accord ? Et ils ne se comprennent pas, parce que ceux qui font en Italie de la philologie d'auteur vont chercher dans la critique génétique les éditions. Et ils se disent, il y en a peu, ça ne marche pas, c'est pas ça, alors que c'était l'interprétation. Et donc, le dialogue est parfois rendu difficile par cela. Et donc, moi, je conseille à mes collègues français d'utiliser critique génétique et édition génétique, de distinguer les deux. Et je conseille à mes collègues italiens de ne pas chercher l'édition génétique où il y a de la critique génétique et vice-versa. Et de faire les parallèles exacts. Okay. Après, ce modèle que j'avais présenté, d'ailleurs, je peux vous passer un article que j'ai écrit là-dessus. Je l'ai présenté la première fois à un grand colloque, c'était l'ouverture d'un grand colloque à Graz des éditeurs allemands. Il existe la Bayerische Germanistische Edition, qui est l'association qui réunit tous les éditeurs de l'ère germanique. Et ils font un colloque tous les deux ans, et ils m'avaient invité à faire cette conférence. Et j'ai présenté l'édition génétique comme une forme d'édition qui englobe l'édition critique à la fin. C'est-à-dire les résultats que je n'ai pas eu le temps d'exposer aujourd'hui parce que c'était un autre contexte, c'est que finalement nous donnons dans l'édition génétique aussi une constitution du texte, ce que les Allemands appellent constitution du texte, un établissement du texte critique. Et donc à ce moment-là, on a tout. On a l'édition critique d'un côté, mais aussi on a les parcours génétiques, on a la transcription complète de tous les éléments et non pas l'appareil critique des éditions italiennes qui présuppose tout un exercice mental pour retrouver les versions à partir des signes des diacritiques, des indications des différents témoins. Personne n'y arrive, c'est complètement inutile, c'est un exercice, un pur exercice qui ne mène à rien. Par contre, grâce au numérique, nous pouvons donner la transcription de tous les témoins et les mettre en rapport. Donc, j'avais présenté dans ce texte cette idée de réunir finalement les traditions à l'intérieur du modèle de l'édition génétique qui comprend. Par contre, là, les collègues français étaient un peu plus dubitatifs, qui comprend aussi l'établissement du texte. Et alors, pour ce qui concerne la question de la chronologie, on revient à la question précédente. Si on ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas trouvé si on est en France, on ne l'a pas trouvé si on est en Allemagne, on ne l'a pas trouvé si on est en Italie, on ne l'a pas trouvé, tout simplement. On donne ce qu'on a trouvé. Il faut trouver la manière la plus intéressante de représenter et de donner à lire ce qu'on a trouvé. Voilà, je vous passerai l'article.
Est-ce qu'il y a une dernière question ou on a dépassé le... Alors, merci à tout le monde. Le séminaire Paris 3 pour la patience, éditeur. Alors, le séminaire Paris 3, Paris 4 se termine aujourd'hui. En revanche, nous avons encore un dernier séminaire baudelairien le 6 juin à l'ENS dans la matinée. Donc, si vous êtes libre, je crois que c'est à 10h, il y aura Pierre Brunel qui parlera de l'édition posthume. La troisième édition de 1868 des Fleurs du Mal. Merci à tous, merci aux intervenants aussi.
Ci vediamo comunque quando mi hai dato appuntamento. Perché dato appuntamento? Ho preso il quando c'è il seminario, non c'è. Ah, sì, 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 è vero, è vero. Sono una sola seminario. Volentieri, sì, sì.
Non si può più, no, 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 non si può più, no,